Dans le livre de Deutéronome, nous allons lire au chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. Nous commencerons à partir du verset 1er. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits, tu diras à ton fils, « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. » Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes les promesses qui sont contenues dans ta parole et qui ont été scellées par ton sang précieux qui a coulé sur la croix, de telle sorte que nous savons maintenant, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ce que tu as accompli, que tu es pour nous favorable et que tes projets, tes desseins pour chacun d'entre nous sont des desseins de bonheur et non pas de malheur. C'est la raison pour laquelle nous voulons nous réjouir toujours plus en toi et nous te demandons humblement que tu nous aides à obéir à ta parole, puisque c'est là la condition que tu places devant nous. Et Seigneur, même pour remplir cette condition, tu viens à notre aide par le secours de ton Esprit, puisque c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Alors ensemble, nous te rendons grâce. Aide-nous pendant ces quelques minutes de méditation. Illumine notre entendement et fais-nous progresser dans tes voies. Nous te le demandons ensemble, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez certainement aussi bien que moi que le livre du Deutéronome est le dernier de ce que l'on appelle les livres du Pentateuque. Et dans ce livre, eh bien, Dieu nous place pour la deuxième fois devant ses commandements et devant ses lois. Alors peut-être que quelqu'un pourrait me dire ce soir, mais nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est vrai, mais la grâce ne nous dispense pas d'être obéissants à notre Dieu. Et d'ailleurs, il y a un texte de l'Écriture que chacun d'entre nous connaît très certainement très bien et qui affirme que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et à marcher selon les desseins qu'il a établis lui-même pour nous en étant soumis et obéissant à sa propre volonté. Et il y a une promesse formidable que nous avons pu découvrir dans ce passage tous ensemble. Il est dit que c'est là, quand nous obéissons, eh bien, la certitude pour nous que nous allons connaître un véritable bonheur. Et en fait, ce que le Seigneur désire, c'est que chacun de ceux qui le servent, de ceux qui lui appartiennent, connaissent une joie profonde, un bonheur véritable. Ça ne veut pas dire que ce sera exempt d'épreuves, exempt de difficultés, mais avec son aide, avec son secours, nous pouvons triompher de tout ce que peut-être l'ennemi de notre âme voudrait placer sur notre chemin pour nous empêcher de connaître l'accomplissement de la promesse de Dieu à notre égard. Et en cette soirée en particulier, j'aimerais vous partager quelques réflexions sur la responsabilité des parents envers leurs enfants. Et vous avez remarqué que dans ce passage que nous avons lu, il est dit que la loi de Dieu, les commandements de Dieu, les préceptes de l'Éternel devaient être inscrits sur les linteaux et la porte des demeures des enfants d'Israël. Vous vous souvenez certainement que dans le livre de l'Exode, il est aussi mentionné que sur les linteaux et les poteaux des portes des maisons d'Israël, ils devaient être placés le jour où ils ont été délivrés de l'esclavage de l'Égypte, eh bien, le sang de l'agneau qui avait été offert et qui est le symbole de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire le symbole de notre Sauveur qui a donné sa vie afin que nous, nous puissions devenir participants de sa nature divine et que nous ayons l'assurance du salut et de la vie éternelle. Et si vous avez été attentif à la lecture de ce texte, vous avez remarqué certainement que la responsabilité de l'enseignement des enfants repose sur les parents. Voyez-vous, non seulement nous devons nous rappeler pour prier le Seigneur, puis en même temps louer le Seigneur et le remercier pour l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, ça c'est le sang placé sur le linteau, mais nous devons aussi assumer cette responsabilité d'expliquer à nos enfants la raison pour laquelle nous sommes appelés le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Car nous tous, nous avons la responsabilité de dire à nos enfants, eh bien, que si nous sommes sauvés, c'est par l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur sur la croix. Et je dois rappeler ici très simplement ce soir que à l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de catéchède, il n'y avait pas non plus d'évangélistes, il n'y avait pas des méthodes pour enseigner la religion. La seule chose qui était à la disposition du peuple de Dieu, eh bien, c'était la loi de l'Éternel. C'est pour nous ce que représente la parole de Dieu, la Bible que nous considérons comme étant la parole de Dieu. Et il y a deux choses qui sont présentées ici dans le chapitre que nous avons lu. Par exemple, tout d'abord, au verset 5, il est dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » La première chose qui doit être notre partage, c'est d'obéir au Seigneur, non pas par obligation, mais par amour. Vous avez remarqué ce qu'il est dit ? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il est ajouté, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Voyez-vous, tout à l'heure, je disais que nous avons, même étant dans la grâce, la responsabilité d'obéir aux commandements et aux préceptes qui se trouvent mentionnés dans l'Écriture. Mais justement ici, nous avons le secret. Il est dit, si ces commandements se trouvent dans ton cœur, et finalement, quand nous aimons Dieu et que nous aimons sa parole, l'Esprit de Dieu vient et place la parole de Dieu, je dirais, ses commandements dans notre cœur de telle sorte que ce n'est plus une loi extérieure à nous-mêmes, mais c'est un principe de vie qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est une chose importante. Parce que je ne peux pas être agréable à Dieu si je me force à obéir. Mais s'il y a un principe de vie, s'il y a cette action de l'Esprit de Dieu, alors ce n'est plus une obligation, mais c'est, je dirais, quelque chose de naturel, de spontané, pressé et poussé par l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et nous connaissons ce que l'apôtre Paul, dans une certaine circonstance, a dit, nous sommes pressés par l'amour de Christ. Donc le premier point, c'est l'amour de Dieu qui va donc nous amener aussi à l'amour de sa parole, à l'amour de ses commandements. Et nous pouvons rappeler ici un texte qui est sorti de la plume de David, ou sous la plume de David, quand il a dit simplement ceci, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque les commandements de Dieu et la parole de Dieu est vraiment au profond de notre cœur et que nous y obéissons, alors il y a là le commencement de la sagesse et une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Donc, l'amour, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément se trouve un peu plus loin, où il est dit au verset 13, « Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. » La crainte de l'Éternel. Voyez-vous, moi, je n'oublierai jamais ce que mes parents ne cessaient de répéter quand ils me disaient « La chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, c'est de craindre l'Éternel. » Il faut dire que dans un premier temps, étant peut-être un enfant et un adolescent, j'ai pensé que la crainte, c'était une sorte de peur de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas mal d'avoir aussi une certaine peur de Dieu, dans le sens qu'il est dit dans l'Écriture quand même que Dieu est un feu dévorant et que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cela peut nous mettre à l'abri justement d'une conduite qui est désagréable, une conduite qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas la peur de Dieu dont il s'agit ici dans ce verset, mais le respect de Dieu. De la même façon que la plupart d'entre nous, du moins je l'espère, nous avons respecté notre Père, nous l'avons craint, et en craignant, eh bien, cela nous a mis à l'abri de certaines désobéissances, ce qui nous a permis aussi de connaître, ça c'est la voie du bonheur, eh bien, une certaine félicité, car lorsqu'on obéit, lorsqu'on est soumis à la parole de Dieu, il est déversé dans notre cœur cette paix ineffable qui vient de la part du Seigneur et qui est un miracle de l'Esprit Saint. Alors, évidemment, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, partager quelques points avec vous. Mais à l'instant, je pense à ceux qui peut-être se disent « Oui, mais nous avons connu le Seigneur alors que nos enfants étaient déjà grands. Alors comment faire pour assumer auprès d'eux cette responsabilité dont nous devinons, vous allez nous parler pendant quelques instants. » Écoutez bien, à ce moment-là, il y a deux choses qui sont importantes. C'est d'exercer la foi et de prier le Seigneur pour le salut de l'âme de vos enfants. Et ensuite, eh bien, puisque vous connaissez le Seigneur maintenant, de donner un témoignage digne de la gloire de Dieu. Car pour un enfant, ce qui est le plus important, c'est pas tant ce qu'il entend de la part de ses parents, mais c'est dans ce qu'il voit vivre de la part de ses parents. Et vous voyez, un enfant ne se trompe pas. Il est capable de discerner. Est-ce que vous avez remarqué ce qu'il est dit dans le texte que nous avons lu? Il est dit, ces commandements-là, ils doivent être inscrits sur les linteaux, sur la porte, mais en même temps, il est recommandé de se souvenir de ces commandements, de les connaître. Et il est dit, tu vas les placer comme un fronteau entre tes deux yeux, et puis aussi comme justement quelque chose que tu lis à tes mains. Il y a ici deux choses qui sont mises en relief. La main, c'est le symbole du service, c'est le symbole du travail. Et la main doit être prompte pour accomplir ce que Dieu veut. Et ceux qui nous entourent doivent pouvoir découvrir que notre service, notre manière d'agir, notre manière de nous comporter est conforme à la volonté de Dieu. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu le frère prier avec un grand enthousiasme et j'approuve bien sûr cette prière et je dis amen du plus profond de moi-même quand il parle d'aimer notre semblable, d'aimer nos frères, nos sœurs. Puis à un moment donné, il a dit d'aimer aussi même notre adversaire, nos adversaires. Et nous reconnaissons tous que cela ne peut venir que par une action puissante de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Mais nous devons bien sûr prendre en considération que ça, c'est un sceau que Dieu seul, par son Esprit, peut mettre sur notre service, pour que notre service soit marqué par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qui, comme je vous l'ai fait remarquer une certaine fois, n'est pas simplement ce que Paul nous dit dans son épître aux Corinthiens au chapitre 13, quand il dit que l'amour est patient, qu'il ne soupçonne pas le mal. Vous connaissez toutes les caractéristiques extérieures de l'amour décrit par Paul dans ce chapitre 13 de l'épître aux Corinthiens. Mais un peu plus loin dans la Bible, et notamment dans l'épître de Jean, il est dit « la preuve ». Que l'amour de Dieu règne dans notre cœur, c'est que nous gardons ses commandements. Et la Bible dit, si nous gardons ses commandements, alors là aussi, nous donnons la preuve que nous aimons Dieu. Alors vous voyez, l'amour de Dieu, c'est pas simplement les signes extérieurs, car voyez-vous, être patient, ne pas être irritable, et avoir pas de soupçons, il y a des personnes dans le monde qui possèdent ces caractéristiques, et pour autant, ne sont pas habitées par l'amour de Dieu. Mais l'amour véritable de Dieu va nous pousser à obéir à ses commandements. Et une des responsabilités, justement, pour le papa, et je parle essentiellement pour le papa, mais ça peut être aussi, bien sûr, le partage de la maman, c'est d'enseigner les commandements, d'enseigner la parole de Dieu aux enfants, de les instruire dans ce domaine-là. Parce que j'ai remarqué que parfois, je ne parle pas d'ici seulement, mais d'une manière générale, vous remarquez quand même à mes cheveux blancs qu'il y a longtemps que j'ai traversé certaines étapes de la vie et connu aussi d'autres manifestations dans des églises. Et j'ai remarqué une chose, c'est que certains ont tendance à se reposer sur l'église et sur les moniteurs, soit sur le pasteur, soit sur certains responsables de l'Église pour que leurs enfants soient au bénéfice de certaines choses qui sont mentionnées dans l'Écriture. Mais voyez-vous, c'est pas la responsabilité seulement du pasteur, ni des moniteurs, ni des responsables des églises, de l'Église quelle qu'il soit, mais c'est la responsabilité du père et de la mère d'avoir un impact dans le cœur et dans la vie des enfants. C'est la raison pour laquelle, eh bien, la parole de Dieu nous montre de différentes manières quel doit être aussi notre comportement vis-à-vis des enfants. Alors peut-être que dans ce que je dirai en cette soirée, il y a des choses qui ne vous conviendront pas. Et vous savez, je vais vous donner une petite illustration. Je suis même si vous ne l'avez pas remarqué, parce que vous n'avez pas eu la possibilité de le remarquer, je suis quand même un musicien. Et j'ai eu l'occasion de faire mon service militaire dans la musique et au sein d'un orchestre. Et je me rappelle de ce commandant que l'on n'appelait pas comme cela, parce qu'on n'avait pas le droit d'appeler par le grade, mais celui qui dirigeait cet orchestre-là, eh bien, c'était monsieur pour nous. Et vous savez, j'avais comme instrument, ceux qui parmi nous connaissent un peu, la clarinette. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs formes de clarinette. Il y a la clarinette si bémol, il y a la clarinette mi bémol. La si bémol, elle est grande, et moi j'avais la petite clarinette. C'était peut-être en rapport avec ma taille, vous voyez. Alors, petite clarinette. Et j'étais aussi soliste dans l'orchestre. Et évidemment, vous savez, je suis très timide. Vous en êtes aperçu, n'est-ce pas? Et des fois, j'avais le trac quand il s'agissait de jouer, surtout quand c'était des morceaux en solo. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai fait cette constatation. Je ne regardais jamais l'auditoire. Heureusement d'ailleurs pour moi. Je ne me souciais pas des réactions qu'il pouvait y avoir dans l'auditoire. Mes yeux étaient fixés sur la partition d'une part et sur le chef d'orchestre d'autre part. Imaginez que je commence avant qu'il me fasse un signe. C'était une catastrophe. Le concert était mis justement par terre. C'était fini. Et puis c'était l'objet de la risée, non seulement de tous ceux qui m'entouraient, mais peut-être même de l'auditoire. Donc mon attention, c'était la partition, et l'autre objet de mon attention, c'était le chef d'orchestre. Lorsque je prêche, je fais la même chose. C'est vrai que je vous vois, et je peux connaître et voir certaines réactions, mais je vais vous dire, vos réactions m'importent peu. Vous pouvez m'approuver, vous pouvez me désapprouver. Ça, c'est votre affaire. Mais mon désir, c'est d'avoir les yeux sur la partition. La partition, c'est la parole de Dieu. Et par ailleurs, sur le chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, c'est Jésus-Christ. Donc ce qu'il dit et qu'il a transcrit là, c'est ce qui fait l'objet de mon attention. Et c'est ce que je voudrais m'efforcer de vivre, de connaître et de mettre en pratique. Parce que si je ne mets pas en pratique cela, eh bien, je vais avoir des problèmes. Mes frères et sœurs, c'est exactement la même chose pour chacun d'entre vous. Vous devez être très attentif à ce que dit la parole de Dieu. Si vous avez une responsabilité sur le plan familial, une responsabilité pour élever les enfants, écoutez, il y a toutes sortes de choses qui sont dites dans ce monde, toutes sortes d'éléments qui sont présentés, mais qui vont quelquefois en sens inverse de ce que dit l'Écriture. Je ne vais pas tout détailler ce soir. Vous imaginez bien qu'il me faudrait plus que quelques minutes pour parler de ces éléments-là. Mais il y a certains points que je voudrais souligner, mettre en relief et qui me paraissent importants, surtout concernant l'éducation des enfants. Alors, j'aimerais commencer par vous dire ceci. Le plus grand problème rencontré par les parents, eh bien, concerne la façon d'influencer l'esprit et la volonté de leurs enfants, tout en leur permettant de prendre une décision qui leur soit personnelle. Nous avons eu la joie, justement, dimanche dernier, de voir une adolescente, une jeune fille, disons plutôt, descendre dans les eaux du baptême. Et je me rappelle encore de son témoignage. Et dans son témoignage, elle a dit simplement ceci. Pour moi, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours entendu parler de Dieu et cru en Dieu. Mais comment pouvait-elle dire cela s'il n'y avait pas eu de la part de son entourage, déjà sur le plan familial, peut-être aussi sur le plan de la communauté? Eh bien, s'il n'y avait pas eu cette parole de Dieu distillée, livrée, de manière à ce que son esprit en soit imprégné, même si dans les premiers temps il ne pouvait pas y avoir de manifestation d'une vie nouvelle, la parole de Dieu était quand même à l'œuvre jusqu'à ce moment précis où elle, à titre personnel, elle a pris une décision. Et après, Dieu a scellé cette décision en mettant dans son cœur et dans sa vie le don du Saint-Esprit. Et c'est là une chose importante pour chacun d'entre nous. Mes frères et sœurs, nous sommes des tuteurs. Un papa, une maman servent de tuteur. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité. Et on lie, par exemple, une jeune plante au tuteur. Ça veut dire qu'il y a certaines obligations que certains parents refusent, justement, de réaliser, d'accomplir. Mais il y a des obligations. Mais à un moment donné, nous savons que pour que cette plante se développe et que finalement elle puisse porter un fruit abondant, ce n'est plus le travail du tuteur ni les liens qui vont lier cette plante ou ce petit arbre au tuteur, mais c'est la greffe qui va apporter une vie nouvelle et lui permettre de porter les fruits que Dieu veut que chaque personne puisse porter. Eh bien, c'est ça dont nous devons être conscients. Il y a une part de responsabilité pendant un temps. Il y a un temps que Dieu a donné où les enfants sont sous notre responsabilité jusqu'à un moment donné où ils s'échappent de notre propre responsabilité et c'est voulu par Dieu lui-même. Alors là, c'est aussi l'affaire de Dieu. Mais ce que l'on aura semé, eh bien, aura quand même eu un impact dans la vie. Il y a deux choses qui sont extrêmes dans notre façon de nous comporter dans l'éducation des enfants. La première chose, c'est les gaver de force en leur parlant constamment et leur présentant constamment à tout bout de champ, sans aucun discernement, la parole de l'Évangile. Pourtant, je viens de dire que la parole de Dieu est importante, qu'il faut la graver. Mais on ne peut pas le faire sans discernement, à n'importe quel moment, sans arrêt, constamment. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, l'enfant va dire « Bon, ça va, j'ai compris. » Et il va suivre comme ça, en apparence. Mais quelque temps plus tard, et ça se passe souvent à l'âge de l'adolescence, eh bien, il va dire « J'en ai assez. » Et il va quitter les parents et il va quitter l'Église. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il a été gavé. Et notre rôle, c'est d'avoir ce discernement que nous devons demander à Dieu pour savoir quand, comment. Alors, avez-vous remarqué ? Pourtant, il semble que le texte va à l'envers de ce que je viens de vous dire. Et la Bible dit que nous devons vraiment lier ces commandements. Et il est dit, quand il rentre dans la maison, que font les enfants je parle du peuple d'Israël. Ils lisaient la loi sur les poteaux, sur la porte. Ils rentraient et le papa, eh bien, quand il allait manger, il parlait du Seigneur. Il leur expliquait la raison pour laquelle certaines choses étaient faites. Je vais ouvrir une parenthèse pour que vous compreniez là où je veux en venir. Il y a bien des années, j'étais donc dans la ville de Narbonne. Nous servions le Seigneur à ce moment-là dans cette église. Et un petit garçon qui venait avec ses parents, chrétiens, mais qui n'assistait jamais au culte, voyez-vous. Et il était justement dans une sorte de petit club là où il avait le divertissement. Peut-être que les parents pensaient que finalement pour lui c'était mieux qu'il passe du temps à se divertir plutôt que de s'ennuyer à un culte. Et donc un jour il est venu au culte et il était tout étonné. Je crois qu'il était à côté d'un de mes enfants, je ne sais pas si c'est ceux qui sont ici aujourd'hui ou les autres qui ne sont pas avec nous, mais il était tout surpris au moment de la Sainte-Cène. Et il a demandé à un de mes enfants, il a dit mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Les parents étaient chrétiens depuis de nombreuses années et ils n'avaient jamais expliqué à cet enfant ce que c'était que la Sainte-Cène. Vous voyez, la responsabilité que nous avons, c'est de pouvoir expliquer certaines choses à nos enfants, c'est leur dire, leur révéler cela. Alors, Dieu a donné à l'enfant, ça c'est un premier point, une intelligence et une volonté propre. Je pense que ça, vous vous en êtes aperçu. Moi aussi, je vous prie de le croire. Les parents découvrent souvent, presque dès le retour de la maternité, que le bébé, il a déjà une certaine personnalité. C'est incroyable. Hein? Mais quand il a faim, il vous le fait savoir. Hein? Mais c'est normal. C'est Dieu qui a mis cela. Mais à peine, quelques mois plus tard, il a une certaine personnalité qu'il essaie déjà d'afficher. Je vais vous raconter. Elle n'est pas là, alors je suis libre. Ma fille est née. Elle avait à peine 6 mois. Quand une nuit, elle nous a fait passer des moments incroyables. Elle pleurait sans arrêt, sauf quand on allumait la lumière. Et quand on allumait la lumière, elle arrêtait de pleurer. Et puis, elle avait par-dessus le marché, ça c'est le jouet que nous avions offert, un petit canard qui faisait un bruit particulier lorsque, justement, elle le faisait tomber par terre. Et puis, elle s'en était aperçue à 6 mois. Assise dans son petit couffin, elle laissait tomber par terre. Ah, mais ça nous réveillait en pleine nuit. J'en ai eu assez à un moment donné. Alors je me suis levé, je me suis approché d'elle. Et puis, elle me regardait. Et je vous avais beau gronder, elle ne comprenait rien du tout. Mais elle me regardait avec beaucoup d'attention. Et déjà 6 mois, elle s'est rendue compte que je ne devais pas être bien content. Mais elle avait son petit canard à la main. Et vous savez comment elle faisait? Elle faisait comme ça, elle me regardait. Elle le mettait à côté du landau. Et puis, paf! Elle le laissait tomber. Elle l'a fait une fois. La deuxième fois, j'ai dit, chut! Elle a gardé comme ça. Elle a essayé encore une fois. Et puis, elle l'a ramené. Et cette fois, alors, je suis allé juste un peu plus loin. Je sais, vous allez me dire, mais vous êtes un bourreau d'enfant. Non, non, ne croyez pas ça. Mais même à 6 mois, je lui ai donné juste une petite coup comme ça à la main, tout petit. Bon, vous vous rendez compte? Peine tout petit. Et elle a compris, vous savez, elle a compris. Elle a hurlé, elle s'est mise à pleurer, elle s'est couchée. Elle nous a plus embêtés. Elle nous a plus embêtés avec cela. Vous voyez, ça semble pas, mais la volonté d'un enfant, elle doit être placée sous le contrôle des parents. Jusqu'à un certain âge, nous avons le contrôle auprès de nos enfants. Je suis surpris de voir combien de parents, eh bien, laissent faire les enfants. Ils hurlent, ils crient, ils trépignent, ils sont capables de faire des caprices incroyables. Et ils sont là, mon pauvre petit, il est si mignon, il est adorable. Oui, laissez-le faire. Et demain, vous verrez, il va vous monter sur la tête. Je sais, je suis en contradiction avec la plupart des psychologues de ce monde. Mais à choisir entre ce qu'ils disent et ce que dit la parole de Dieu, j'ai choisi la parole de Dieu. Et voyez-vous, la parole de Dieu, elle nous place devant cette responsabilité. Nous avons à justement les guider, à guider la volonté de l'enfant. Parce que la volonté de l'enfant est orientée dans une direction qui l'éloigne de Dieu naturellement. Et nous devons tout faire pour ramener cela avec délicatesse, avec tendresse, avec amour. Et c'est là le problème. C'est que les enfants doivent aussi savoir que nous les aimons. Et la sévérité ou la fermeté n'est pas incompatible avec le véritable amour. Et je crois que c'est une chose que nous devons comprendre et demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique. C'est vrai que s'il y a que cet amour, n'est-ce pas, qui dit « Oh, pauvre petit, mais c'est un enfant, laissons-le faire, il va comprendre plus tard. » Mais il ne comprendra jamais. Parce que Dieu t'a donné une autorité. L'autorité des parents a été conférée par le Seigneur. Et nous devons exercer cette autorité. Mais attention, autorité qui doit être accompagnée de tendresse et d'affection profonde. Parce que l'enfant, s'il sait qu'on l'aime, il saura aussi à un moment donné céder devant la fermeté qui est à ses yeux à ce moment-là, non pas quelque chose pour son mal, mais pour son bien. Et il y a là quelque chose qui doit accompagner cette forme d'éducation qui vient en dirigeant, en orientant sa volonté, c'est la prière. Nous devons prier le Seigneur pour que précisément il puisse aussi eh bien, comprendre certaines choses. Il y a un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Ça concerne, je vais le lire pour vous, mais je vous en donne la référence, ça concerne Jésus lui-même, le Messie. Et il est dit au chapitre 7, et à partir du verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois seront abandonnés. Mais vous voyez, même au sujet du Seigneur lui-même, il est dit jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Certains parents pensent que les enfants, livrés à eux-mêmes, eh bien, c'est la meilleure façon qu'ils puissent prendre une décision après pour leur propre compte devant le Seigneur. Eh bien, l'Écriture nous met en face de ce qui est contraire. Nous avons une responsabilité, c'est de leur montrer la voie. Et pour cela, eh bien, il y a toutes sortes de moyens. Nous pouvons utiliser toutes sortes de choses de la vie courante. Nous pouvons parler du Seigneur à table quand nous avons la nourriture, et expliquer la raison pour laquelle nous rendons grâce à Dieu quand nous nous mettons à table, expliquer aux enfants la raison pour laquelle dans certaines épreuves, certaines difficultés, nous menons un certain combat dans la prière, dans l'intercession. Ils peuvent m'être mis au courant de toutes ces choses, mais ils doivent voir que nous nous appuyons toujours sur Dieu. La volonté de l'enfant est un instrument délicat, placé entre les mains des parents, afin qu'il garde, dirige, fortifie et éduque l'enfant. Parce qu'une des choses importantes, c'est que l'enfant soit soumis aux parents. Je voudrais tirer encore un exemple, tiré de la personne du Seigneur Jésus. Il avait 12 ans. Quand Marie et Joseph sont montés à Jérusalem pour une fête extraordinaire. Vous savez, il y avait des fêtes auxquelles tout le pays participait. Et il y avait la foule qui se rassemblait à Jérusalem. Et c'était une occasion de liesse générale, de joie immense. Tout le monde se rendait donc au service religieux, au temple, et lui, Jésus, avait 12 ans. Et les parents ne se sont pas rendus compte. Vous savez, il y avait certainement toute la famille, et ils pensaient, c'est ce que dit l'évangéliste Luc, que Jésus était avec les membres de la famille, quelque part. Et ils sont repartis sans se rendre compte que Jésus ne les accompagnait pas. Il était au temple, il était en train d'écouter les docteurs de la loi, et il leur posait toutes sortes de questions. Déjà à 12 ans, il y avait cet intérêt. Il faut dire que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Et eux-mêmes, les docteurs, étaient impressionnés de voir la connaissance du Seigneur. Mais n'empêche qu'il est dit, lui, les interrogeait aussi. Et les parents qui étaient partis avaient fait déjà un jour de marche, vous vous rendez compte? Il y a de quoi critiquer Joseph et Marie quand même, hein. Oublier Jésus de cette manière-là. Un jour de marche. Et puis ils se disent, mais ouais, où est Jésus? Et ils se retournent, ils cherchent, il n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Demi-tour. Ben, c'est agréable ça. Après un jour de marche, faire demi-tour, retourner à Jérusalem. Et enfin, ils le trouvent dans le temple. Première réaction de Marie, mais enfin,
Jésus, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous étions dans l'angoisse. Et Jésus dira, mais ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? C'est extraordinaire la réponse de Jésus. Mais moi, ce que je trouve plus extraordinaire, c'est ce qu'il a fait après. Il est sorti du temple et il a suivi Joseph et Marie. Et le texte nous dit exactement ceci. Et Jésus fut soumis à Joseph et Marie. Il est le Fils de Dieu. Et certainement qu'il avait déjà une connaissance extraordinaire. Il aurait pu, à partir de là, dire « j'ai plus besoin de vous ». Mais il fut soumis à Joseph et Marie. Mes frères et sœurs, ce manque de soumission à l'heure actuelle est palpable dans la vie et le comportement de nombreux enfants. Et nous avons besoin de crier au Seigneur pour qu'il puisse y avoir un travail dans leur cœur et dans leur vie. Et c'est notre responsabilité, avant qu'ils sachent repérer le mal et se détourner du mal, il faut que nous soyons là pour leur montrer dans quelle direction ils doivent aller. Et la parole de Dieu enseigne l'obéissance comme étant la première vertu de l'enfant. Obéir, non pas parce qu'il comprend ou qu'il approuve. Moi, maintes fois, mon papa m'a dit, quand je disais, et pourquoi, vous avez entendu les enfants dire, et pourquoi, vous savez ce qu'il me disait, parce que c'est comme ça. Alors vous allez dire, cette réponse-là, elle n'est pas très bonne. Et je sais que les psychologues, ils ne sont pas d'accord que l'on réponde de cette manière-là aux enfants. Mais une chose est certaine, c'est que nous devons arriver à comprendre, ça c'est bien sûr pour les enfants, que Dieu a conféré cette autorité aux parents et que sans obéir aux parents, eh bien, à un moment donné, il y a des conséquences qui sont graves pour notre propre vie. Mais je voudrais quand même souligner ceci, il faut ne jamais oublier que l'enfant ne doit pas être placé sous le joug d'un gendarme. S'il ne sent jamais l'affection, mais simplement l'autorité dictatoriale, là, l'enfant n'arrivera pas à percevoir l'amour. Et il va y avoir une révolte naturelle. Attention, mes frères et sœurs, parce que ces deux extrêmes-là, ils se trouvent quelquefois au milieu du peuple de Dieu. L'autorité doit être celle de l'amour. Il n'y a pas d'autorité qui soit supérieure à celle que Dieu est capable de conférer par le moyen de son Esprit Saint. Et il faut arriver à pouvoir discerner le moment, le temps, où justement il faut pouvoir lâcher du lest. Et des fois, c'est difficile à constater. Mais il y a des moments où nous devons sentir qu'il faut un petit peu lâcher de lest. Je vais terminer en replaçant ces deux objectifs-là. L'autorité d'une part, et d'autre part, le discernement pour lâcher un peu le lest afin que l'enfant puisse avoir une décision personnelle et que ce ne soit pas par obligation qu'il aille de l'avant. Tout d'abord, j'aimerais vous dire au sujet de l'autorité. Un serviteur de Dieu raconte le témoignage suivant. Sa fille, qui avait entre 16 ans et demi, 17 ans, avait un petit ami et bien sûr, elle rentrait, il s'en était aperçu assez tard, de plus en plus tard. Des fois même c'était minuit. Bon, aujourd'hui, on dit que c'est pas si tard que ça. Mais lui s'est rendu compte de ça. Puis, un soir, alors qu'il était dans l'angoisse, parce qu'il ne la voyait pas revenir, il est allé à la fenêtre, il était très inquiet. Puis il a vu qu'il y avait la voiture de son petit copain, là, qui était en bas, devant le garage. Et il savait bien que tous les deux étaient dans la voiture. Alors il a été pris comme cela, d'une pulsion très vive, et il est descendu très rapidement, il a ouvert la porte sans ménagement, et il a parlé à sa fille, il a dit, « Toi, monte à la maison, et respecte ton père et ta mère. » Et la fille, elle est montée, vraiment la tête basse, elle est allée se cacher dans sa chambre. Et puis, il s'est adressé au jeune homme. Elle lui a dit, « Toi, si tu veux continuer à la fréquenter, eh bien, à telle heure, il faut que tu sois à la maison. » Et lui, il a dit, « Oui, monsieur. » Et puis, il est parti. Et puis, quand il est arrivé à la maison, il est allé dans la chambre. Il lui a dit, « Est-ce que tu as quelque chose à me dire ?» Et vous savez ce qu'a répondu la fille ? Il a dit, « Oui, papa, heureusement que tu es intervenu. Il était temps que tu le fasses. » Elle est en train de dire, « Papa, j'avais besoin de cette autorité pour que tu me montres les limites à ne pas franchir. » Vous vous rendez compte ? C'est la fille qui lui a indiqué les limites à ne pas franchir. Jusque-là, il avait laissé faire. Après, bien sûr, c'était un peu brutal. Il faut que nous comprenions, il y a l'autorité. Il faut vraiment fixer des limites à nos enfants. Les limites selon ce que nous voyons au travers de la parole de Dieu qui doit être fait. Par ailleurs, eh bien, il faut pouvoir à un moment donné savoir lâcher du lest. Et à un moment donné, peut-être sentir quand il faut avoir une autre attitude pour qu'ils puissent prendre eux-mêmes des décisions personnelles. Vous savez, si quelqu'un obéit pour faire plaisir au papa, c'est exactement comme dans l'Église. Si on obéit pour faire plaisir au pasteur, ça n'a aucune valeur. Si on obéit simplement par obligation ou par force, ça n'a aucune valeur. Je rejoins ce que j'ai dit au commencement. Ce qui est important, c'est d'obéir par amour. Nous, pour élever les enfants, et les enfants, pour être soumis à leurs parents. Voilà. C'était juste un petit aperçu. Vous comprendrez bien que dans ce domaine, il y a bien d'autres choses à dire. Nous continuerons une autre fois.